Et je vous laisse la place.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un dimanche pascal. J'aimerais vous dire que dans mon cœur, il y a un seul sentiment qui m'anime, la joie et la reconnaissance pour ce que le Christ a fait. Il a tout accompli à la croix. Il est mort, certes. Il a été enseveli, certes. Mais au troisième jour, il est sorti vainqueur, il est sorti vivant, il vit au siècle de siècles. Gloire au Seigneur. Et quand on a un sauveur merveilleux comme lui, et quand ce sauveur merveilleux vous donne une occasion comme celle-ci de pouvoir le proclamer, croyez-moi, on le fait avec toutes ses tripes, on le fait avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de conviction. Jésus est vraiment ressuscité. Gloire au Seigneur. Et je suis très heureux de savoir qu'il est présent au milieu de nous, alors que nous sommes rassemblés en son nom. Très heureux de savoir que non seulement il est là, mais il aimerait nous visiter, nous faire entrer dans une relation encore beaucoup plus intime avec lui, mais aussi il aimerait se révéler à tous ceux qui jusque-là sont étrangers à sa puissance de résurrection. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est qu'au terme de ce service, eh bien, qu'il y ait des hommes et des femmes qui comprennent, comme le pasteur, un de nos pasteurs l'a souligné, la résurrection du Christ, ce n'est pas un mythe, voyez-vous, mais c'est une réalité sur laquelle est fondée notre foi. Jésus est vraiment ressuscité, que ceux-là ou celles-là qui ne le connaissent pas encore ou qui ont une religion, qui ont adhéré à une croyance, à une tradition séculière sur Jésus, que ceux-là puissent avoir l'opportunité aujourd'hui de le rencontrer personnellement et de l'expérimenter dans leur vie. Alléluia. Ça, c'est le souhait, plus qu'un souhait, c'est le désir, plus qu'un désir, c'est la prière de mon cœur. Bonjour donc à chacun de vous, et merci une fois de plus, pasteur, pour cette opportunité merveilleuse que vous m'accordez pour ce témoignage de confiance, car comme vous le savez, aujourd'hui, pour donner la parole à un pasteur, on réfléchit 100 fois. Il y a de plus en plus de troubadours qui sévissent un peu partout. Il y a de plus en plus de prophètes, d'apôtres, de patriarches. Vous voyez, surtout chez nous en Afrique, on dirait qu'il y a malheureusement cette recherche, et c'est une pathologie, hein, pour laquelle nous aimerions que les Européens prient pour nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci donc pour cette confiance. Merci à chacun de vous d'être présent et de pouvoir ensemble partager ces moments merveilleux, ces moments de célébration, comme un peu partout à travers le monde, mais aussi ce moment de proclamation de sa parole. Si je me tiens devant vous, si le pasteur et tous ses collaborateurs se tiennent devant vous dimanche après dimanche, mais aussi durant les réunions de la semaine, c'est tout simplement parce que nous croyons que Christ est véritablement ressuscité. Nous croyons que Christ est le même encore aujourd'hui. Nous croyons que ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui et il le fera tant qu'il le voudra, jusqu'à son retour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, merveilleuse célébration de Pâques. C'est un moment de fête, c'est un moment de joie, mais aussi un moment de profonde reconnaissance envers le Seigneur pour ce qu'il a accompli à la croix. Quelquefois, quand on a grandi dans un milieu comme le nôtre, où on a été au contact avec le nom de Jésus depuis Mathusalem, eh bien, avec le temps, tout cela ne nous dit plus rien. Vous voyez, on trouve normal. Et avec le temps, le nom même du Seigneur finit par être écrémé, vidé de sa substance, au point de se retrouver avec une religion morte. Voyez-vous, mais j'aimerais vous dire que Jésus est vraiment ressuscité. Je ne suis pas né dans une famille chrétienne, mais je suis devenu chrétien un jour et en le rencontrant personnellement. Que Dieu soit béni. Sans plus tarder, je vous invite donc à incliner vos têtes dans la prière et nous voulons nous préparer à écouter sa parole à l'occasion donc de ce dimanche pascal. C'est avec beaucoup de reconnaissance, tendre Père, que je me tiens parmi ton peuple et devant toi pour te dire merci de m'accorder cette occasion d'annoncer, de proclamer ta parole, mais également de célébrer ensemble avec mes frères et sœurs ta ta victoire, ton triomphe sur la mort, ton triomphe sur le péché et sur toutes les puissances des ténèbres. Pour nous, c'est une occasion, Seigneur, de proclamer haut et fort que toi, Jésus, tu es mort, mais il était impossible que les liens de la mort te retiennent dans la tombe. Au troisième jour, tu es sorti vainqueur. Vainqueur de la tombe, vainqueur de la mort, vainqueur du péché et de toutes ses malédictions, vainqueur des puissances démoniaques, vainqueur de Satan lui-même. Et merci de ce que non seulement tu as vaincu à la croix, mais tu disposes cette victoire, Seigneur, pour chacun de nous. Et nous voulons te demander à ce qu'aujourd'hui, Seigneur, à l'occasion de cette célébration pascale, que chacun de nous puisse avoir cette opportunité, cette occasion, ce privilège d'expérimenter une fois de plus ta puissance de résurrection. Bénis ta parole, Seigneur, qu'elle puisse trouver un accueil chaleureux dans les cœurs de ton peuple. Bénis également ton serviteur et donne-lui, Seigneur, toute l'onction, toute la grâce, l'autorité dont il a besoin pour pouvoir annoncer, proclamer ta parole avec persuasion et dans un langage clair, afin de permettre, Seigneur, à ton peuple de saisir ta pensée, celle pour laquelle il est là. Merci Jésus, que toute la gloire te revienne. Amen. Gloire au Seigneur, très bon appétit. Gloire à Dieu, c'est une parole merveilleuse. Et c'est la nourriture, la seule dont nos âmes, nos esprits ont besoin. Amen. Gloire au Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qui a été fait au niveau de la célébration et ces moments qui, merveilleux qui nous ont ramenés dans le passé. Et tout cela a suscité en moi une reconnaissance envers le Seigneur extraordinaire. Quand on réalise qu'il est venu, qu'il a donné sa vie à la croix, qu'il est ressuscité et qu'il est le même encore aujourd'hui, on se dit, mais Seigneur, c'est formidable, c'est extraordinaire. Alléluia. C'est sublime. Vous voyez ? Et en effet, nous avons toutes les raisons d'être dans des lieux comme celui-ci pour non seulement célébrer notre Père, le louer, l'adorer en esprit, en vérité, mais aussi pour commémorer cet événement le plus marquant des annales de l'univers. Cet événement qui a marqué, mes amis, l'histoire de l'humanité, le seul qui a changé le destin de l'humanité. Car à partir de la mort de Jésus-Christ, tout n'a plus été la même chose. Depuis, mes amis, l'homme asservi au péché, l'homme tiré vers le bas par la pesanteur, par toutes sortes de forces occultes, spirituelles, désormais cet homme-là peut sortir de son tombeau spirituel, moral, et entrer dans une relation vivante, existentielle, avec son Créateur. Alléluia. Oui, Pâques reste une fête extraordinaire pour nous. Un moment où l'Église célèbre, proclame, mes amis, la résurrection. Certes, il y a eu la souffrance, il y a eu Golgotha, mais aussi il y a le tombeau vide. Alléluia. Et cette résurrection du Christ, je voudrais souligner une fois de plus, mes amis, est un des événements le plus marquant. Si nous pouvons nous tenir devant vous ce matin pour proclamer la parole de Dieu, pour vous annoncer l'évangile du Christ, c'est parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Paul, en son temps, a écrit aux Corinthiens en leur disant, « Si Christ n'était pas mort, alors notre prédication est vaine. Alors votre foi est aussi vaine. Alors vous êtes un peuple malheureux, puisque vous croyez dans une sorte d'arnaque, de mensonge. Mais voici, Christ est véritablement ressuscité. Gloire au Seigneur. Donc cette doctrine de la résurrection du Seigneur n'est pas une brimade intellectuelle ou religieuse. Ce n'est pas une fable ingénieusement inventée, imaginée, pensée. Ce n'est pas une fabulation bien orchestrée. C'est vraiment une réalité. Une réalité historique. Une réalité que beaucoup d'entre nous avons expérimenté un jour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Trois faits avant d'attirer votre attention sur ce que ce Jésus peut encore accomplir aujourd'hui. Trois faits, mes amis, qui attestent, qui soutiennent cette vérité relative à la résurrection du Christ. Eh bien, au matin du troisième jour, le tombeau était vide. Alléluia. Mais il y a toujours eu des détracteurs. Il y en a qui ont essayé de répandre toutes sortes de mensonges ou de soutenir une hypothèse en disant « oui, son corps aurait été volé, aurait été enlevé ». Bien, supposons que cela soit vrai. Qui aurait pu faire ça? Premièrement, les adversaires du Christ. Alors supposons que ce soit eux qui aient eu à voler le corps du Seigneur. Ben, il l'aurait exhibé partout. Oui ou non? Il l'aurait exhibé partout pour montrer à tous que cet homme n'était qu'un aventurier qui a prétendu qu'il mourrait et qu'au troisième jour, il ressusciterait. Voici son corps. On aurait promené sa dépouille à travers tout Jérusalem, ce qui n'est pas le cas. Deuxièmement, supposons que ce soit ses disciples qui aient volé ça, enfin qui aient pris ça pour montrer, prouver aux gens, oui, il avait raison. Mais dans quel but? S'il avait volé ça, pensez-vous qu'ils auraient été prêts à mourir pour un mensonge? Est-ce qu'ils auraient été prêts à tout perdre, leur bien, plus que leur bien, leur propre vie, à connaître le martyre, tout en sachant que tout cela est une histoire fondée sur un mensonge? Ça ne tient pas debout. Effectivement, le tombeau était vide parce qu'il était impossible que les liens de la mort puissent le retenir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Deuxième fait, le déplacement du centre de gravité religieux du samedi au dimanche. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, le jour du Seigneur, le jour qui avait été consacré, c'était le septième jour, à savoir le samedi, le Shabbat, n'est-ce pas? Et les premiers disciples de Jésus étaient tous des Juifs. Alors pourriez-vous me dire, quelle est la raison? Qu'est-ce qui a fait que des gens comme ceux-là, profondément marqués par la culture biblique, foncièrement attachés à l'enseignement de Moïse, qu'est-ce qui a fait que ces gens-là, eh bien, tournent le dos au septième jour pour commencer à se réunir le premier jour, à savoir le dimanche? Si cela est arrivé, c'est qu'il y a eu un événement majeur, un événement qui les a amenés à comprendre que tout cela, eh bien, n'était que l'ombre de ce qui allait venir. Cet événement n'est autre que la résurrection de Jésus, puisqu'il est ressuscité au premier jour. Voilà pourquoi, depuis lors, eh bien, les disciples du Christ, tous les premiers jours de la semaine, à savoir le dimanche, ils se retrouvent pour le célébrer. Alléluia. Et enfin, on peut en trouver, il y en a plusieurs. Enfin, il y a dans la parole de Dieu, au chapitre 15 de l'épître de Paul à Timothée, un passage. Et pour ceux qui ne le savent pas, 1 Corinthiens 15 est considéré comme une des plus vieilles matières du Nouveau Testament. C'est un de vieux témoins. Qu'est-ce que Paul nous dit, parlant de la résurrection de Jésus? Il dit que Jésus est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité selon les Écritures. Il est apparu à ses disciples, aux 12, d'abord à Pierre, Cephas, et puis ensuite aux 12, et puis il ajoute, et ça c'est un détail important, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont certains sont décédés. Alors dit, maintenant, je vous pose la question, si tout cela a été inventé, eh bien les détracteurs du Christ et des disciples de Jésus, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient écrit. Ils auraient trouvé Paul et dit, prouvez-nous. Où sont les gens qui ont vu Jésus? Eh bien, ni dans les littératures romaines, ni dans la littérature juive, nous trouvons des propos qui réfutent les propos de Paul. Ce qui montre une fois de plus que Jésus est véritablement ressuscité. Alléluia. Donc, nous avons toutes les raisons de croire en lui et de savoir qu'il est vraiment ressuscité. Et si tu as encore de doutes, eh bien, au-delà de tout ce que je viens de dire, il n'y a que lui, et lui seul, par son Saint-Esprit, qui peut te prouver qu'il est véritablement vivant. Alors, c'est Dieu, c'est Jésus qui est vivant, ce Dieu formidable, extraordinaire, qui a donné sa vie à la croix du calvaire, qui est ressuscité au troisième jour. Eh bien, c'est Jésus-là, est le même encore aujourd'hui, est le même demain. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire encore aujourd'hui et parmi nous. Et pour cela, je voudrais vous inviter à aller à la rencontre du Seigneur, de ce Jésus merveilleux, à un moment de sa vie où il va une fois de plus accomplir, démontrer de quoi il est capable. Nous allons lire dans Jean chapitre 5, Évangile de Jean chapitre 5. Nous allons lire le 9 premier verset. Et mon thème de ce matin est Jésus-Christ de Nazareth ou l'ange de Bethesda. Jésus de Nazareth ou l'ange de Bethesda, point d'interrogation. Nous lisons après cela, nous dit la parole de Dieu, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estoropiens, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle qu'ait été sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme retrouva la santé, il prit son lit et se mit à marcher. » Formidable. Quel renversement de situation. Ce lit de malédiction, ce lit de souffrance, eh bien, qui le portait, et comme vous le savez tous, c'est toujours le plus fort qui porte le plus faible, n'est-ce pas? Cette souffrance, cette paralysie était plus forte que cet homme pendant 38 ans. Ce lit était son seul compagnon. Mais lorsque Jésus passe par là, eh bien, ce n'est plus le lit qui le porte, mais c'est lui qui porte le lit. Gloire au Seigneur. Jésus de Bethesda, et plutôt Jésus de Nazareth, ou alors ange de Bethesda. Je voudrais attirer l'attention de chacun de nous, une fois de plus, sur ce sauveur merveilleux, sur ce Seigneur extraordinaire, à savoir Jésus. Lorsque lui est là, mes amis, eh bien, tout devient possible, quel que soit notre besoin. Mais dans un monde religieux comme le nôtre, où, hélas, avec le temps, toutes sortes d'enseignements bizarroïdes, eh bien, se sont greffés sur l'enseignement pur de la parole de Dieu, au point où ces enseignements mettent en évidence les cultes aux saints, les cultes aux anges. Eh bien, dans un monde pareil, où les gens se tournent plus vers d'autres créatures, plutôt que vers le Créateur, car par Jésus, pour Jésus et de Jésus sont toutes choses, non seulement sur cette terre, mais aussi dans tout l'univers et dans les cieux des cieux. Eh bien, dans un monde pareil, nous devons prêcher ce message pour amener les gens à pouvoir tourner leur regard, quel que soit leur problème, vers une seule personne, à savoir Jésus qui a été pendu sur le bois de la croix, car là, par sa mort, il a rendu tout possible. Rappelez-vous, il s'est écrié, alors qu'il était attaché, cloué sur ce bois infâme de la croix, il s'est écrié, « Tout est accompli, tout est achevé. L'homme n'a plus rien à faire, mes amis. Désormais, la porte du ciel est grandement ouverte pour quiconque croit en lui et s'appuie sur l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. » Une fois de plus, nous avons là une histoire qui met en évidence, mes amis, la puissance du Christ, cette capacité, cette vertu qu'il a à apporter des solutions aux problèmes qui paraissent insolubles aux hommes. Cette capacité qu'il a à rencontrer les hommes dans leur misère, à rencontrer les hommes dans leur humiliation, à rencontrer les hommes dans leur déchéance, dans leur décrépitude, et à les restaurer, et à faire de ces hommes ou de ces femmes de nouvelles créatures. C'est Jésus qui se révèle à travers les Saintes Écritures comme étant la lumière du monde, comme étant le salut des peuples, comme étant la gloire d'Israël. Eh bien, c'est Jésus-là, mes amis, est réellement ressuscité. Et il est au-dessus de tous les anges. Il est au-dessus de tous les archanges. Il est au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle passé, dans le siècle présent, mais aussi dans les siècles à venir. C'est le seul nom qui nous a été donné d'en haut pour notre salut. C'est le seul qui puisse remplir un homme d'une espérance vivante. Mes amis, le nom de Jésus, la personne de Jésus, l'œuvre du Christ à la croix, eh bien, est considérée par les Saintes Écritures comme un mystère. L'apôtre Paul, écrivant aux Colossiens, il parle d'un mystère. Des mystères qui est resté caché dans tout le temps, dans toutes les époques et à tous les hommes et à tous les anges. Mais mystère qui a été révélé dans le temps de la fin. Quel est ce mystère-là, mes amis? Eh bien, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Comment expliquer que le Dieu du ciel puisse quitter, mes amis, son trône de gloire, et entrer dans l'espace et dans le temps, revêtir un corps semblable au nôtre, nous donner sa vie à la croix, être pendu sur cette croix, mourir, ressusciter et puis un jour venir habiter le cœur d'un pécheur? Croyez-moi, aucun ange, aucun archange n'aurait pu s'imaginer une telle grâce, une chose pareille. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, ayant compris cela, eh bien il nous dit que la position que nous avons en Christ fait que même les anges du ciel nous envient. Les anges sont des serviteurs. Oh, alléluia. Les anges sont au service du royaume des cieux, au service de ceux qui sont appelés à hériter le royaume, voyez-vous. Mais ceux qui sont en Christ sont devenus, mes amis, les enfants du Père. Ils deviennent, mes amis, des citoyens célestes. Oh, gloire au Seigneur. Nous appartenons tous à des nations, à des pays, voyez-vous. Mais tôt ou tard, nous laisserons cette appartenance. Nous en irons seuls. Et croyez-moi, dans le royaume de la tombe, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de race, il n'y a pas de culture, voyez-vous. Mais ceux qui sont en Christ appartiennent au royaume le plus glorieux. Oh, alléluia. Nous avons une espérance vivante qui fait que lorsqu'on a compris tout ça, on marche avec assurance. Car on sait que sur cette terre que nous foulons, c'est la terre de notre Père. Alléluia. Cette terre que nous foulons, qui a été maudite à cause du péché, mais avec la venue du Christ, il y a moyen, tout en étant sur cette terre marquée par la malédiction, il y a moyen d'être dans la bénédiction, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il a été fait malédiction, afin que la bénédiction qui avait été promise devienne une réalité pour tous ceux qui sont en lui. Alléluia. Oh Jésus, Jésus le même hier, le même aujourd'hui. Alléluia. Et dans cette portion des Écritures, eh bien nous voyons de quoi c'est Jésus est capable. C'est Jésus est capable de faire. C'était un jour de fête. Nous sommes à Jérusalem. C'était le jour du Shabbat. Et ce Shabbat est tombé un jour où il y avait une fête. Et il se trouve que le Seigneur est descendu, est monté à Jérusalem. Vous savez qu'on monte toujours à Jérusalem. On ne descend jamais. Hein. Même ceux qui viennent du nord montent toujours. Eh bien, le Seigneur est monté à Jérusalem, non pas par hasard, Il était conduit en tout et pour tout par le Saint-Esprit. Nous pouvons nous imaginer le maître marchant dans les rues de Jérusalem, non pas pour se déambuler, pour passer son temps, vous voyez, non pas pour se livrer je ne sais à quoi, mais plutôt à la recherche des perdus. Car il est venu chercher et sauver les perdus, dont chacun de nous. Et le voilà dans cette marche, le voilà qui arrive, nous l'avons lu. Il arrive donc à la piscine de Bethesda, près de la porte des brebis. Il y avait là une piscine. Et là, il y avait des gens qui étaient tous dans des besoins. Leur seule présence autour de cette piscine, montrait déjà, suffisait pour faire comprendre à n'importe quel observateur que ces gens étaient là parce qu'ils avaient des problèmes et qu'ils étaient à la recherche d'une solution à leurs problèmes. Qu'ils étaient à la recherche d'un miracle par rapport à leurs besoins. Voyez-vous, il y avait des gens qui étaient à la recherche de la guérison parce que leur corps était rongé par la maladie. Voyez-vous, d'autres étaient paralysés, d'autres encore estropiés, perclus, d'autres encore étaient aveugles. Il y avait là, mes amis, toutes sortes de besoins. Et chacun s'était déplacé, ou chacun avait été déplacé, puisque les paralytiques ne pouvant pas marcher, les estropiés selon le degré de leur handicap, devaient avoir besoin que des gens puissent les amener. Ils étaient tous là, concentrés dans cet endroit, avec un seul objectif, avec une seule attente, expérimenter le miracle de la part du Seigneur, et par un ange, et oui. Là, nous l'avons lu, à cette piscine, il y avait 5 portiques ou de galeries à colonnes, et sous ces portiques étaient donc couchés, toutes ces personnes que je viens d'énumérer, une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques. Ils sont venus parce qu'ils étaient dans un besoin. Voyez-vous, ils sont venus parce que personne n'a pu trouver de solution à leurs problèmes. Et la plupart, je suis convaincu, étaient croyants. Ils avaient foi dans le Dieu de la Bible. La plupart essayaient, autant que faire se peut, d'observer les commandements de la parole de Dieu. Mais malgré tout cela, aucune solution à leurs besoins, à leurs problèmes. Tous sont venus donc pour recouvrer la santé. Tous sont venus à la recherche d'un miracle. Un miracle. Et la Bible nous dit qu'il y avait là des miracles qui s'est passé dans cette piscine de Bethesda. Il se trouve que Dieu, dans sa grâce immense, envoya un ange qui agitait l'eau. Et le premier malade qui allait se jeter dans cette piscine, expérimenter la guérison, quelle que fût sa maladie, sa paralysie ou handicap. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens s'étaient déplacés. Nous allons considérer un tout petit peu de plus près cette piscine, cette scène autour de la piscine. Il est dit qu'il y avait un ange qui descendait de temps à autre. De temps à autre, périodiquement. Donc il n'y avait pas de certitude absolue. Personne ne pouvait deviner à quelle heure l'ange allait descendre pour agiter l'eau. Donc il fallait beaucoup de patience. Vous voyez ? Et il fallait aussi beaucoup d'attention. Vous pouvez vous imaginer un tout petit peu dans quel état se trouvaient tous ces malades, sculptant l'eau. Au moindre mouvement, hop ! Imaginez-vous, dès que l'eau était agitée, mes amis, c'était un sprint vers la piscine. Voyez ? Et les malades, les boiteux, les estropiés, les aveugles, les paralytiques, tous devaient courir pour aller chercher la guérison parce qu'un ange était descendu. Et par rapport à l'intervention des anges, Lisez l'Ancien Testament, lisez le Nouveau Testament, vous verrez que le Seigneur a utilisé les anges à plus d'une fois. Rien que dans le Nouveau Testament, bien, Luc nous rappelle cette histoire de Zacharie qui était un des sacrificateurs et qui avait été amené selon son appartenance sacerdotale et selon la classe à laquelle il appartenait pour pouvoir entrer dans le lieu saint, voyez-vous, et ainsi assumer sa responsabilité de sacrificateur. Et pendant qu'il était là, la Bible nous dit, l'ange Gabriel lui apparut et lui apporta une bonne nouvelle selon laquelle lui et sa femme, malgré l'âge avancé, eh bien, ils allaient avoir un enfant. Et plus tard, eh bien, cette parole s'accomplira puisque Jean-Baptiste, eh bien, viendra au monde. Alléluia. Pensez au même ange qui alla donc se révéler à Marie pour lui annoncer aussi cette bonne nouvelle qu'elle allait devenir, eh bien, celle que Dieu allait utiliser pour pouvoir porter le Fils de Dieu. Et plus tard, cela est devenu une réalité. Donc nous trouvons une activité angélique, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Mais cela ne veut pas dire que nous devrions leur rendre un culte. Attention, le culte revient à Dieu et à Dieu seul. Alléluia. Toute tentative de vouloir adorer un ange ou un archange, eh bien, ça s'appelle de l'idolâtrie. Ou à adorer je ne sais qui, Marie ou quelqu'un d'autre, c'est de l'idolâtrie. Un seul est digne d'être adoré. C'est celui qui a donné sa vie à la croix pour nous. C'est celui qui est présent, car il est Dieu fait chair. Alléluia. Pleinement homme et pleinement Dieu. Donc, et Dieu dans sa grâce, de temps à autre, eh bien sa grâce est manifestée par l'envoi de cet ange. Et la présence de l'ange s'est manifestée donc par cette eau de la piscine qui s'agitait, qui mettait à s'agiter. Et tout d'un coup, tout le monde, eh bien, savait que là, il y a une présence divine et que le moment d'expérimenter la guérison arrivait. Et tout le monde courait. Voyez-vous, tout le monde courait pour se jeter dans la piscine. Et par rapport à tous ces malades, eh bien, nous pouvons voir tout de suite qu'il y en avait qui étaient plus favorisés que d'autres. Vous vous rendez compte? Eh bien, prenons le cas des aveugles au bord de cette piscine. Par eux-mêmes, ils ne pouvaient pas courir, oui ou non? Donc, ces aveugles avaient besoin de gens qui puissent les aider. Alors, imaginez-vous un peu un aveugle, un malvoyant, qui n'aurait eu pour personne, pour aide, qu'une personne âgée, eh bien, cet aveugle-là était complètement défavorisé. Parce que cette personne âgée, le temps qu'elle réalise que l'eau est en train d'être agitée, le temps de prendre l'aveugle par la main et de se mettre à courir, le temps d'arriver, eh bien, ceux qui étaient partis avant lui sortaient déjà de la piscine. Donc, le cas des paralytiques et des estropiés. Ceux qui sont privés, les estropiés ou les perclus, privés de l'usage d'un ou de plusieurs membres, eh bien, tout dépendait du degré de paralysie ou de quel membre ils étaient amputés. Vous voyez? Alors imaginez-vous un peu un cas pareil. Voilà. Un handicapé, un homme paralytique qui réalise que voilà, l'eau est en train d'être agitée. Mais il était défavorisé de par son état, puisqu'il ne pouvait pas courir pour être le premier. Parce que c'est le premier, la Bible est claire, hein, c'est le premier qui expérimentait la guérison. En d'autres mots, ben, le premier devait déjà au départ être favorisé. Avoir une bonne santé physique, même tout en étant malade. Être en mesure de pouvoir courir, n'est-ce pas? Donc, il y avait des gens, tout en étant au bord de cette piscine, qui avaient peu de chances d'être guéris, peu de chances d'expérimenter le miracle. Voyez-vous? Et puis ensuite, il y avait la descente de l'ange dans la piscine. Descente qui se faisait, comme je l'ai souligné, comme nous l'avons lu, de manière occasionnelle, de manière périodique. Donc, aucune certitude absolue quant à l'heure, quant au moment, quant au jour où l'ange allait descendre. Donc ça demandait beaucoup de patience. Ça demandait, mes amis, beaucoup d'attente. Ça demandait beaucoup d'attention. Alors vous pouvez vous imaginer la fatigue mentale qui accompagnait tous ces gens-là. Vous êtes là, vous ne savez pas quand est-ce que ça va se passer. Mais vous attendez. Et puis de temps à autre, l'eau agitée et vous couriez. Voyez-vous ? Donc, et même quand on courait, il fallait encore courir plus vite. Car c'est celui qui descendait le premier qui expérimentait le miracle. Il fallait être comme un Usain Bolt. Voilà. Voilà. Donc, savoir sprinter. Même ça, mes amis, on pouvait être courir comme lui, mais à un moment, être distrait. Voilà. À un moment, paf, son GSM tombe, sonne, et comment ça va? Et tu as quel niveau, Bastille? Hop! L'ange descend. L'ange agite l'eau. Le temps de se retourner. Trop tard, quelqu'un d'autre est déjà tombé. Donc vous voyez, mes amis, ça n'était pas facile. Il fallait payer un grand prix pour pouvoir expérimenter le miracle. Et oui, il y avait beaucoup d'appelés au bord de cette piscine, mais trop peu d'élus expérimentant le miracle de Dieu. Trop peu d'élus expérimentant la guérison. Et la vie, mes amis, ou le monde, est comme cette piscine de Bethesda. Il arrive que Dieu, dans sa grâce, eh bien, envoie un ange qui agite l'eau ici, qui agite l'eau là-bas, et ceux qui sont juste à côté, à un certain moment, ben, ils bénéficient de cette grâce. Ce qu'on appelle chance, bonne chance, chance, ou concours de circonstances, n'est que la manifestation de la providence de Dieu. C'est ainsi que même de gens qui ne connaissent pas le Seigneur, quelquefois, il leur arrive d'expérimenter quelque chose, une protection, vous voyez, alors que d'autres meurent, et là, il y a comme une main visible qui les fait sortir de là, juste avant que la mort frappe. C'est la providence divine. Je me souviens de l'histoire de ce jeune étudiant congolais, de chez moi. Il faisait ses études dans une université à l'intérieur, pour ceux qui connaissent le Congo, à Lubumbashi, à 2000 km de Kinshasa. Et puis un jour, il quitte, il devait rentrer à Kinshasa, je crois qu'où vivaient ses parents. Il prend un régulier d'Air Zaïre à l'époque. Et à bord de cet avion, il rencontre un monsieur, un soviétique, qui s'intéresse à lui. Il lui pose toute une série de questions, ce qu'il faisait. Il dit, non, je suis étudiant. Et puis il lui dit, mais tiens, est-ce que tu ne souhaiterais pas aller poursuivre tes études en URSS à l'époque, en Union soviétique? Il dit, mais oui. Comme la plupart d'ailleurs d'entre nous à l'époque, on ne souhaitait qu'aller faire des études à l'étranger. Eh bien, il dit, mais écoutez, voilà, donne-moi tes coordonnées. Il a pris ses coordonnées et quelques temps plus tard, ce garçon recevait une bourse et il partait poursuivre ses études en Union soviétique. Dieu avait agité l'eau. Il y avait là un ange, une grâce particulière. Vous voyez, c'est ce qui arrive. Au moment juste où tu termines tes études, c'est justement ce moment-là que ton cousin, qui a toujours collé les affiches de tel parti majoritaire qui domine ou qui dirige la ville, la mairie, juste à ce moment-là, il devient conseiller du maire. Juste au moment où tu as besoin de travail. Et à ce moment-là, le maire lui dit, mais toi, tu as toujours été fidèle. Tu m'as accompagné depuis X années. Tu as toujours collé des affiches pour te remercier. Donnez-moi le nom de quelqu'un, parce que nous devons engager quelqu'un. Enfin, les fonctionnaires ici, vous le savez. Et puis le cousin t'appelle. Petit, tu es où? Il a dit, non, mais je suis dans le RER. Où tu vas? Elle dit, non, je dois déposer le dossier à la RATP, là. Parce que j'ai appris. Il dit, non, petit, laisse. Est-ce que tu as le peu... Viens me voir à la mairie. Et souvent, quand quelqu'un comme ça, tout d'un coup, peut prendre une tasse de café avec le chef, ça les ailes lui poussent. Hein. Viens me voir vite à la mairie. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, viens petit. Tu arrives, il donne-moi le dossier. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, donne-moi le dossier. Tu es à la recherche du boulot, non? Mais moi, avec le maire, c'est face à face. Et après, paf, tu mets le dossier. On te prend. Oui, l'eau a été agitée. La grâce de Dieu s'est manifestée, n'est-ce pas? Donc, ça a été le cas de tous ces gens-là. Et en particulier de l'homme qui va nous préoccuper pendant le peu de temps qui nous reste, à savoir ce paralytique. 38 ans que cet homme était paralysé. Que cet homme était paralytique. 38 ans. Lui aussi est parti chercher la bénédiction. Il est parti chercher la guérison, mes amis, à cette piscine de Bethesda. Lui aussi était là au bord, à quelques encablures de la piscine. Lui aussi attendait, avec patience, avec attention, la descente de l'ange. Oui. Mais malheureusement pour lui, avec sa paralysie, eh bien, comme lui-même le dira au Seigneur, à chaque fois que l'eau était agitée, le temps qu'il se lève, le Seigneur seul connaissait, lui seul connaissait le degré de sa paralysie, hein, le temps qu'il arrive péniblement, c'était fini. C'est cet homme-là, sur cet homme-là que j'aimerais attirer notre attention. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est donc au bord de la piscine, cet homme. Le Seigneur est passé par là. Oh, il est venu chercher de gens comme ce paralytique, de gens comme toi. Et ce matin, celui qui a rencontré ce paralytique est aussi devant toi. Il est à côté de toi. Il est au-dessus de toi. Tu peux repartir aujourd'hui avec une grâce particulière. Beaucoup d'appelés, comme je le disais, trop peu d'élus qui expérimentaient la bénédiction. Cet homme est là couché, malade depuis 38 ans. Et la Bible nous dit qu'il était là couché sous le portique, et ce depuis longtemps. Donc ça faisait longtemps que cet homme était là. Il ne pouvait pas expérimenter la guérison, parce qu'incapable de se jeter dans la piscine. Et lui-même le dit, et la Bible, nous l'avons lu, il n'avait personne pour le jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Donc il était seul. Eh oui, seul. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui souffrent de ces sentiments de solitude? Combien se sentent seuls? Tu te sens seul. Tu n'y as personne pour te pistonner. Personne pour te soutenir. Personne pour intervenir en ta faveur. Tu regardes à ta condition sociale. Tu regardes à ta famille. Personne. Tu es seul. Et oui, ça a été le cas de cet homme. Seul. Lui-même le reconnaît. Seigneur, je n'ai personne pour m'aider. Quel drame. Quelle situation terrible. Donc, je n'ai personne. Et puis ensuite, il dit, quand il lui arrivait d'y aller, eh bien, c'est quelqu'un d'autre qui descendait toujours avant lui. Donc, défavorisé. Quand je vais vers la piscine, un autre descend avant moi. J'arrive toujours le dernier. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui dans leur vie peuvent se retrouver dans la situation de cet homme, toujours le dernier. Quand tu arrives, c'est à ce moment-là qu'on clôture les listes. Fini. Quand tu arrives, c'est à ce moment-là qu'on ferme la porte. Alors là, tu t'excites, c'est pas possible, Dieu ne m'aime pas, voilà. Voyez-vous, toujours le dernier. Oui, ça arrive, je vous assure, ça arrive. Voyez, partout, vous êtes toujours le dernier, le dernier. Personne pour l'aider à plonger dans la piscine de bénédiction, dans la piscine de la guérison. Incapable par lui-même de pouvoir y aller, de pouvoir se lancer dans une course qui puisse lui permettre d'expérimenter la guérison. C'est là, mes amis, que quelque chose va se passer. C'est là que nous voyons qu'il va être mis en contact avec plus qu'un ange. Si l'ange pouvait descendre de temps à autre, celui qui est désormais devant lui, eh bien lui est permanent. Oh, alléluia.
lui n'a pas besoin qu'il y ait d'une saison particulière. Les saisons, le temps, l'espace sont dans sa main. Où qu'on soit, eh bien, on peut bénéficier de sa grâce. Quelque chose va se passer. Eh oui, Jésus est venu pour des gens comme celui-là. Jésus est venu pour des gens comme vous et moi. Jésus est venu pour tous ceux qui sont rejetés, ceux qui n'ont pas de place, qui ne sont pas dignes de ce monde. Eh oui, Jésus est venu pour cela. Gloire au Seigneur. Je n'ai personne pour m'aider, pour m'épistonner, pour me jeter dans la piscine de la grâce, dans la piscine de la réussite professionnelle. À la fin de l'année, les responsables se retrouvent pour décider qui va connaître une promotion. Mais vous, vous n'avez personne. Ça se passe partout, c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est la France fait la différence. Hein. C'est toujours comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui dit, oui, mais ça, c'est mon cousin. Ah. Le népotisme, voilà, ça existe partout. Mais vous n'avez personne. Voyez-vous, personne sur qui compter. Voyez. Personne pour me faire descendre dans la piscine du mariage. Seul, vous cherchez. Vous avez l'impression que personne ne vous regarde. Vous savez ça? Vous avez beau attirer le regard de gens et tout ça. Vous essayez par tous les moyens. Vous avez déjà vu ces gens, ils passent, ils repassent. Ils cherchent simplement à attirer votre attention. Vous voyez? Et personne, et il arrive des fois, les gens sont dans une indifférence criminelle. vous tournez, et dites, ah, ils sont maudits. Et puis vous repartez. Voilà. Vous essayez de trouver quelqu'un, rien. Personne pour vous jeter dans la piscine de l'emploi, dans la piscine du mariage, de la promotion sociale ou autre. Vous êtes seul. Et vous-même, vous êtes limité. Voyez-vous, vous ne pouvez rien faire, mes amis. Eh bien, c'est là que j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est là que j'ai une bonne nouvelle pour chacun de nous, mes amis. Car en face de cet homme, de ce paralytique de 38 ans, paralysé depuis 38 ans, se tient quelqu'un qui est plus qu'un ange, qui est plus qu'un archange. Le Fils du Dieu vivant, le Seigneur des Seigneurs, le Roi de Rois, celui dont la parole est créatrice. Quand il dit une chose, la chose s'accomplit. Celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas encore. Celui-là, peu importe que l'eau s'agite derrière, peu importe qu'un ange descende, quand lui est là, il y a plus qu'un ange. Quand lui est là, il y a plus que la piscine. Et regardez la question qu'il lui pose. Il dit, veux-tu retrouver la santé? Oh, gloire au Seigneur. Veux-tu? Il sollicite sa volonté. Dieu ne peut rien contre notre propre volonté. C'est là qu'il faut qu'il trouve de la foi auprès de nous. Voilà pourquoi la parole de Dieu doit toujours précéder toute chose. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alléluia. Nous devons faire la différence entre la croyance intellectuelle, l'adhésion intellectuelle, l'assentiment intellectuel avec cet engagement ferme vis-à-vis de la parole de Dieu, à savoir la foi. Une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Alléluia. Puisque lui a dit, eh bien j'obéis. Il n'y a pas de circonstances qui puissent, par exemple, me dire que cela va se réaliser. Non, il a dit, eh bien, je vais attendre que cette chose s'accomplisse. Alléluia. Veux-tu recouvrer ta santé? Voilà la question que le Seigneur lui pose. Eh bien, écoutez la réponse. Il est tellement obnubilé par cette vision de l'ange. Il est tellement tourné vers la piscine et vers l'ange que... Quand le Seigneur lui pose cette question, écoutez ce qu'il lui dit. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il est plus tourné vers l'ange. Il est plus tourné vers la piscine. Oh, homme, si tu pouvais tout de suite savoir qui est celui qui te pose cette question. Si tu pouvais savoir qui est celui qui se tient devant toi. Certes, homme, mais pleinement Dieu. Oh, alléluia. Si tu pouvais savoir qu'avec lui, tout est possible. Et c'est là, mes amis, c'est là que le Seigneur lui dira, écoute, lève-toi, lui dit-il, prends ton lit et marche. C'est tout. Pas de cérémonie, pas de rites spéciaux. Il n'a pas été chercher des bougies, je sais quoi, pour les allumer, commencer à s'agiter. L'homme aime ça. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Vous voyez? Dieu n'a pas besoin de tout ça. Quand il décide d'agir, eh bien, il agit. Veux-tu être guéri? Eh bien, lève-toi, prends ton lit et marche. Gloire au Seigneur. Eh bien, sur le champ, cet homme s'est tenu debout. Formidable. Formidable. Sa paralysie a disparu. Comme un éclair. Il a retrouvé toute sa vigueur. Il s'est mis debout. Et je crois avec une certaine rage, regardant son lit. Puisqu'il était désormais identifié à son lit. Ce lit de souffrance. Ce lit de malédiction. Ce lit de jugement. Voyez-vous? Quand on voyait ce lit, on savait qu'il était là. Oui, il y a certains problèmes auxquels on finit par s'identifier. Voyez, quand on parle, ah mais c'est lui, c'est tout. Ah oui, mais c'est elle. Vous parlez de quoi? Il n'est pas encore. Ah oui, mais voilà, c'est elle. Donc, ce lit-là, quand Jésus passe par là, celui qui le portait, cette fois-ci, celui qui le prend, je crois qu'il a fini par le brûler quand il est rentré. Toi, lit. Certes, tu as été mon compagnon. Tu m'as accompagné partout. Maintenant, c'est fini. Voilà. Celui qui le portait, voyez-vous? Eh bien, cette fois-ci, celui qui prend le lit et qui le porte, il devient plus fort que le lit. Alléluia. Mes amis, cela a été rendu possible. Possible parce que Jésus s'est tenu devant cet homme. Parce que Jésus lui a donné cette parole. Il a répondu à cette parole. Il a expérimenté le miracle. Et le grabat de malédiction, ce grabat d'humiliation, eh bien, est devenu pour lui un simple objet. Et est devenu pour lui un moyen de dire aux gens que voilà, désormais c'est moi qui les porte. Voyez-vous, comme un trophée à la gloire du Messie. Mes amis, beaucoup d'entre nous peuvent se reconnaître dans l'histoire de cet homme ou de beaucoup d'autres autour de cette piscine à la recherche d'une bénédiction. Voyez-vous, à la recherche d'une opportunité. On attend que toutes les conditions soient réunies. Vous voyez, comme vous dites en français, il faut battre le fer quand il est. Mais avec la foi, il faut battre jusqu'à ce qu'il devienne chaud. Vous voyez la différence, hein? Ouais. Vous attendez que le fer soit chaud avec Dieu, non. On se met à le battre jusqu'à ce qu'il devienne chaud. Eh bien, vous cherchez une opportunité. Vous attendez qu'il y ait quelqu'un qui puisse vous aider, qu'il puisse faire ceci ou faire cela. Bref, vous attendez la descente d'un ange, d'une grâce particulière. Eh bien, ce matin, il y a plus qu'une grâce. Il y a plus qu'un ange. Il y a le Seigneur lui-même. Autour de toi, devant toi, près de toi, au-dessus de toi, il y a ce Jésus de Nazareth. Et je voudrais inviter chacun de nous à pouvoir réagir par rapport à ce message. Ce Dieu-là veut faire quelque chose. Il veut que tu repartes avec une grâce. Tout dépend de toi. Voyez-vous, en ce dimanche pascal, il est prêt à manifester cette puissance de résurrection dans ta vie. Il est prêt aujourd'hui à te visiter puissamment afin que tu repartes avec un autre regard sur la vie, avec un visage rayonnant. Car lui, passant par là, toute ténèbre s'éclipse. Alors, je vous invite à incliner vos têtes dans la prière. Je voudrais demander à tous ceux qui ont cherché une grâce près de la piscine de Bethesda, ceux qui attendent une opportunité quelconque, ceux qui cherchent quelqu'un pour les pistonner, ceux qui sont à la recherche d'un piédestal quelconque,
Mais aujourd'hui, il y a plus que ça. Alors si tu veux que le Seigneur puisse t'étendre la main et te donner ce dont il a besoin, comme il a fait avec ce paralytique au bord de la piscine, tu peux simplement te lever là où tu es. Et nous allons prier pour toi. Merci pour les personnes qui se lèvent. Merci. 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 Oui. De temps à autre, l'eau peut être agitée et puis tu reçois une grâce. Mais c'est périodique. Mais c'est occasionnel. Mais avec lui, c'est la permanence. Avec lui, peu importe le temps. Ça peut être en hiver, ça peut être en été, en automne, eh bien, ou en hiver, peu importe. Avec lui, eh bien, tout est possible. Alors, nous allons prier pour vous. Je demandais donc au pasteur de prier pour tous ceux qui se sont...